Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Jérôme Florin.
Bonjour Bruno Lina.
Bonjour.
Vous êtes membre du conseil scientifique et professeur de virologie au CHU de Lyon et chercheur au Centre international de recherche en infectiologie. Monsieur Lina, est-ce qu'on est en train de s'affoler pour rien, de surréagir face à cette nouvelle mutation du virus, ou est-ce que le danger est bien réel ?
Non, c'est-à-dire qu'il est, raisonnable de réagir et de comprendre un petit peu ce qui se passe et enfin d'essayer de se projeter un tout peu. On a affaire, alors moi je préfère parler d'un clone infectieux parce que on a tellement d'incertitudes sur justement ce virus qui vient de Grande-Bretagne, qui présente un certain nombre de caractéristiques qui en font un virus un petit peu différent de celui qui circule actuellement en France, mais qui présente beaucoup de similitudes avec celui-ci. Et en particulier, il n'est pas plus pathogène, il ne donne pas des infections plus graves, il se transmet apparemment un peu plus facilement, mais c'est les mêmes groupes d'âge qui sont touchés. Il y a énormément de similitudes. La vraie question, c'est de savoir deux choses. Premièrement, est-ce que ce virus, finalement, quand il rentrera en France, parce qu'à un moment donné, il est probable qu'il se mettra à diffuser en France, eh bien, on sera en capacité de le maîtriser avec les outils que l'on a. Et la deuxième chose, qui est une question sur laquelle aujourd'hui on a plutôt des signaux rassurants, mais il faut qu'on termine de consolider ça, c'est que en termes de vaccination, eh bien, il n'y aurait pas trop de différence entre ces deux virus, qui fait que les vaccins, normalement, devraient donner une protection qui est la même. Et on a besoin d'avoir quelques données encore. Je pense qu'on les aura d'ici la fin de la semaine.
Donc, plus contagieux, oui. Alors, les Anglais donnent un chiffre, contagiosité supérieure de 70%. Vous confirmez ce chiffre ?
Alors, en fait, si vous voulez, ce qu'ont observé les Britanniques, on va rentrer dans quelque chose de technique, mais tout le monde connaît le R0. Oui. Donc, tout le monde est capable de comprendre. Aujourd'hui, en France, le R0 du virus, il est aux alentours de 1. Un petit peu moins de 1 ou de 1.
C'est-à-dire qu'une personne contamine une personne.
Voilà. Ce virus, dans les mêmes conditions que celui dans lesquelles circule le virus en France actuellement, il aurait un R0 de 1,4. Mmh. Donc, en fait, on a une augmentation du risque de transmission avec ces virus sans qu'on sache très bien pourquoi. Il est probable que ce soit lié à une affinité au récepteur, qu'il y ait des substitutions qui a été trouvée sur la protéine S. Mais là encore, on a encore beaucoup d'incertitudes.
Mais donc, vous dites, a priori, le vaccin n'est pas menacé, mais il y a quelques années, le virus de la grippe avait muté au point de rendre le vaccin quasi inefficace. Il avait fallu actualiser ce vaccin. Est-ce qu'on pourrait connaître la même chose ? Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui d'actualiser les vaccins qui ont été créés contre le coronavirus ?
Alors, d'abord, c'est beaucoup trop tôt de parler d'actualisation du vaccin contre le coronavirus, puisque je viens de vous dire justement qu'a priori, il n'y a pas de raison de le faire, jusqu'à ce qu'on ait
trouvé le contraire. Mais c'est a priori qui nous interroge, forcément.
Voilà, mais donc on imagine le scénario du pire, qui n'est pas forcément le plus probable, hein, bien évidemment. Si on devait modifier les compositions du vaccin, on pourrait faire exactement la même chose que ce qui se fait pour les vaccins contre la grippe, c'est faire ce qu'on appelle une modification de dossier. Simplement apporter un changement, au lieu de dire que l'ARN de Moderna ou de Pfizer-BioNTech, puisque c'est les deux premiers qui vont apparaître, comporte la séquence du virus qui a émergé en février, par exemple, eh bien, on lui mettra la séquence du virus britannique.
D'accord.
Donc, c'est pas très compliqué à faire. Après, il faut reproduire les doses, hein, bien évidemment.
Mais,
de nouveau, il y a aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Hein, on n'est pas du tout dans cette hypothèse-là. On est beaucoup plus dans l'hypothèse que le vaccin, même s'il faut qu'on le confirme, que le vaccin tel qu'il a été produit jusqu'à présent est un vaccin qui devrait nous protéger.
Alors,
et un des arguments, si vous me laissez juste expliquer pourquoi, c'est que les Britanniques n'ont pas vu que pour les personnes qui avaient été immunisées du fait d'une infection avec le virus qui circulait avant celui-ci, faisaient des taux de réinfection élevés. On ne le voit pas du tout. Il y a apparemment le même taux de réinfection chez ceux qui sont infecté avec, il reste l'autre virus qui circule et ce nouveau virus. Donc on n'a vraiment pas de signaux.
Est-ce que la vaccination, la campagne commence dimanche en France, est-ce que la vaccination va permettre d'atteindre la fameuse immunité collective, environ 60% des gens contaminés, est-ce qu'il va nous permettre, ce vaccin, de franchir ce cap ? Et sous combien de temps ?
il va nous permettre d'y arriver plus vite. Parce que
plus vite,
on a un objectif qui est un objectif d'une immunité collective de 65% à peu près. Donc ça veut dire que quand 65% de la population française ou de la population mondiale, ça dépend à quelle échelle vous vous mettez, auront des anticorps qui seront capables de bloquer l'infection virale. À partir de ce moment-là, la dynamique épidémique du virus n'est plus possible. Mais tant qu'on n'a pas atteint ces 65%, il y a une possibilité pour le virus de continuer à circuler. Alors, avec des niveaux de circulation qui, bien évidemment, baissent avec le niveau d'immunité, hein. C'est-à-dire que c'est pas la même chose quand il y a 5%, 25%, 50%, ou bien évidemment au-delà de 65%.
Aujourd'hui, il y a combien de Français immunisés? Quelle proportion? C'est 10%, 20%?
C'est quelque part entre 10 et 20%. Dans certaines régions, en particulier comme en Île-de-France, on est plutôt près de 22-23%. Mmh. Et il y a des régions où on est aux alentours de 10%. Donc il y a une hétérogénéité.
Donc il va nous falloir plus d'un an, Bruno Lina, pour sortir de ce tunnel noir?
De l'intérêt de la vaccination, c'est-à-dire qu'on va de toute façon avancer pas à pas. Cette vaccination, elle va d'abord essayer de protéger les plus fragiles. On a tous collectivement protégé les plus fragiles, hein, puisque l'essentiel des mesures qui sont prises pour protéger les plus fragiles. Maintenant, on a un outil supplémentaire pour les protéger. Donc, allons-y, utilisons cet outil.
Et puis, ça veut dire, après, je vous repose ma question, pardon, mais ça veut dire que fin 2021, on y est encore? On ne sera pas à 65% de population vaccinée ou immunisée?
On sera... C'est un long tunnel, vous savez, l'histoire de ce virus. On va aller vers des situations qui vont être plus simples parce qu'on va avoir protégé nos plus fragiles, parce qu'on va avoir quand même une immunité collective. Il y a une différence entre dire que le virus ne circule plus du tout ou de façon très marginale et le fait qu'on peut avoir encore quelques épidémies de temps en temps.
Donc on aura
peut-être encore un petit peu de virus qui circulera.
Bruno
Lina, c'est possible.
Très important, on a encore des inconnus. Ce vaccin, il bloque ou il réduit les symptômes, il me protège, mais est-ce qu'il empêche la contagion? Est-ce qu'il protège l'autre?
On n'a pas de données fournies par les producteurs de vaccins sur cette question spécifique, mais qui est très difficile à démontrer.
On ne sait pas.
On ne sait pas par rapport aux chaînes de transmission. Ce que l'on extrapole à partir des données, c'est qu'on pense qu'une personne immunisée a moins de risques de transmettre le virus qu'une personne qui ne l'est pas. Parce que, a priori, elle ne fait pas d'infection. Et si elle fait une infection probablement avec des symptômes qui sont absents ou et une diminution de la réplication du virus dans les voies aériennes supérieures.
Oui, mais on peut être asymptomatique et transmettre la maladie.
Oui, mais en proportion moins que lorsqu'on est symptomatique et qu'on est non immunisé.
Ce virus, il ne va pas disparaître. Vous n'arrêtez pas de dire, vous et les autres, il va falloir vivre avec ce virus. Ça veut dire qu'il faudra se faire vacciner tous les ans contre la grippe et contre le coronavirus.
Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire. Ouais. En 1890, un virus qui s'appelle le coronavirus OC43 a été responsable d'une pandémie. Mmh. Et ce virus OC43, on l'a toujours avec nous, mais vous ne le connaissez pas. C'est un virus, un coronavirus qui donne de temps en temps des infections chez les enfants, qui sont des infections bénignes, et parfois, de temps en temps, chez certains immunodéprimés, des infections un peu plus graves. Eh bien, il est très probable que ce coronavirus suive exactement le même chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire partie de notre routine de virose hivernale avec des conséquences qui ne seront pas très importantes parce qu'il va toucher les enfants. Et on voit que le coronavirus ne donne pas d'infection grave chez les enfants de façon très exceptionnelle, mais que de temps en temps, on a des personnes fragiles qui peuvent être atteintes, ce que l'on voit avec le virus OC43. Il faudra qu'on les prenne en charge. Oui. Et comme on aura, je l'espère, développé un certain nombre de stratégies thérapeutiques, on pourra mieux les prendre en charge. Alors, maintenant. Mais oui, ce virus, on va le garder longtemps.
Et donc vivement cette routine, alors, pour reprendre votre terme. Merci beaucoup Bruno Lina, membre du conseil scientifique, virologue, et merci également à Bertrand Frachon pour la liaison.